Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de vous raconter une histoire ou de tenter de vous convaincre de quoi que ce soit, j'aimerais parler de la vie de tous les jours. Vous connaissez tous les dangers de notre quotidien. Par exemple, rater une marche d'escalier, faire un accident de voiture ou encore s'électrocuter dans notre bain. Alors, il faut bien avouer, ces risques ne vont pas nous empêcher de vivre. Ce qui nous effraie plus, ce sont les plus racontés, les plus médiatisés. Les attaques terroristes, les bombes nucléaires, les cancers, les dictatures. Que des choses bien sympathiques, mais qui ne nous empêchent pas de vivre non plus. La preuve en est que vous êtes ici devant moi ce soir, et non pas en train de vous terrer chez vous. Pourquoi ? Tout simplement, car ces problèmes ont beau faire énormément de victimes, la probabilité qu'ils nous atteignent est très faible, et nous le savons. Nous ne vivons pas dans un monde sans risque. Le risque zéro n'existe pas. Nous avons en continu une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais angoisser et y penser sans arrêt ne va pas la faire disparaître. Vivre, c'est être conscient des risques, mais les accepter. Alors oui, notre monde est dangereux à vivre. Mais s'il ne l'était pas, nous n'y vivrions pas vraiment. Nous ne ferions qu'y être. D'ailleurs, depuis que l'être humain est sur cette terre, c'est-à-dire environ 200 milliers d'années, il a toujours divisé le monde entre le bien et le mal. Et lui-même a souvent aussi entre les deux, n'étant ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais. Selon plusieurs philosophes, tels que Montaigne ou Rousseau, l'homme reste entre les deux, car la seule autre possibilité serait de devenir totalement mauvais. Mais il n'y a pas que les philosophes qui se sont posés la question. L'exemple le plus connu reste tout de même l'Église. Dans la religion chrétienne, le diable est un ange déchu, et pour se venger de Dieu, il tente les hommes et essaye par tous les moyens de les détourner de lui. Le mal est donc inhérent à l'homme. Mais rares sont ceux qui y succombent complètement, et les autres, ceux qui résistent à l'appel du diable, pourraient contenir leur élan de cruauté ou de violence. Alors, comment expliquer toutes les horreurs commises par l'homme? Eh bien, assez simplement en fait. Lorsque quelqu'un se comporte mal ou a des idées extrêmes et dangereuses, nous avons tendance à rester passifs. Nous ne tentons pas d'empêcher cette personne et la laissons faire. Je suis sûre que vous connaissez plein d'exemples qui illustrent la passivité face au mal dans l'histoire, que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale, du génocide du Rwanda ou encore des goulags russes. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé non pas de vous raconter l'histoire avec un grand H, mais une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, la veille du Nouvel An. Dehors, tout est blanc de neige. Mais la petite fille marche pieds nus et elle tient à la main un petit paquet d'allumettes qu'elle essaye de vendre. Cependant, à la Saint-Sylvestre, tout le monde pense au repas du soir et personne ne veut rester dehors par ce froid. Les badauds passent donc devant dans la petite fille, sans un regard pour son air suppliant. Le soir arrive, la petite fille n'a rien vendu, elle est frigorifiée, mais elle n'ose pas rentrer. Son père la battrait. Épuisée, elle s'assied contre un mur et décide de se brûler une allumette pour se réchauffer. Ça lui fait tellement de bien qu'elle décide d'en brûler une deuxième, puis une troisième. Et à chaque fois, elle pense à sa grand-mère, morte depuis peu, mais qui était la seule à l'aimer. Le lendemain matin, les passants découvrent le corps raidi de la petite fille, morte de froid. La première fois que j'ai entendu ce conte, j'étais petite et c'était assez simple. J'étais triste. Pour moi, la petite fille était la gentille innocente, alors que son père, qui la battait, était le méchant. En grandissant, j'ai appris que tout n'était pas noir ou blanc, mais c'est seulement quand j'ai lu ce conte à ma petite sœur que je me suis rendu compte de la négligence des passants. Ils ont tous vu la petite fille souffrant dans le froid et ne lui ont pas porté secours. Et de ce fait, ils sont tout aussi coupables de sa mort que le père, et peut-être même plus. Leur indifférence l'a tuée. Car contrairement à ce que l'on croit, l'inaction n'est pas l'absence de choix. L'inaction est un choix. Et c'est bien souvent le choix des lâches. Aussi, si ça tourne au désastre, ils peuvent dire que ce n'est pas leur faute, qu'ils n'ont rien fait. Mais justement, ils n'ont rien fait. Et c'est un choix à assumer autant que s'engager pour un côté ou pour un autre. Remarquez toutefois que quand je dis s'engager, je parle d'agir de son propre chef, car nous sommes convaincus de ce que nous faisons, et non pas d'agir car nous obéissons simplement à un ordre. Cette différence est importante pour la suite. Dès notre plus tendre enfance, on nous conte des histoires. Des histoires où l'on apprend à être courageux, où l'on apprend qu'il ne faut pas fuir face au danger, et qu'ainsi, on deviendra des légendes. Mais c'est également le cas dans la vie réelle. On se souvient de trois types de personnes, car chacune de ces personnes ont marqué l'humanité à leur manière. Les artistes et les intellectuels. Prenons-le comme exemple justement fort actuel et non moins illustre, Cyril Hanouna. Les intellectuels, les grands méchants, comme Pinochet et bien entendu le plus connu, Hitler, et les héros, Martin Luther King, Gandhi, Jean Moulin. Mais nous ne retenons jamais ceux qui restent passifs, ceux qui se laissent faire. D'ailleurs, si nous reprenons l'exemple de nos héros, tous ont désobéi, car la loi allait à l'encontre de leurs convictions. Et c'est pour ça qu'on se souvient d'eux, parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont désobéi. Je ne vous parle ici, bien sûr, pas de désobéissance, par pur plaisir de défier l'autorité. Je vous parle de désobéissance civile. La désobéissance civile, comme l'explique Guy Durand, un juriste spécialisé en éthique, c'est désobéir publiquement et pacifiquement à une loi ou un ordre qui s'oppose à nos valeurs et à notre conscience. Ça peut être n'importe quoi. Refuser une convocation de l'armée ou, de manière plus actuelle, appartenir aux Gilets jaunes. Je ne sais pas si ces derniers ont tort ou raison, mais ce que je sais, c'est que je préfère avoir tout un peuple de Gilets jaunes qu'un peuple passif. Car si nous restons passifs, d'autres en profiteront et ça ne peut mener qu'au pire. Quand on est petit, on nous dit qu'il faut obéir à papa et maman. Mais face à une autorité illégitime et dangereuse, la désobéissance est toujours préférable à la soumission et à la passivité. Mais ce n'est pas tout. Nous nous devons d'être actifs chaque jour, car nous devons empêcher les autres et nous-mêmes de devenir les passants dans la petite fille aux allumettes. Simplement s'assurer qu'une personne ne soit pas rejetée, ou corriger quelqu'un lorsqu'il tient des propos racistes, sexistes ou homophobes. Et il faut commencer avec les enfants, car ce sont eux les plus influençables, et c'est leur éducation qui dictera leur comportement de demain. Le harcèlement est hélas fort répandu dans notre société, et ce, dès l'école primaire. Pourtant, le harcèlement s'appuie sur trois piliers. Le harceleur, le harcelé et les témoins. Si ces témoins agissaient, qu'ils protégeaient la victime ou simplement qu'ils dénonçaient le harceleur, le taux de harcèlement diminuerait fortement. Et c'est pour ça que nous devons pousser les autres à agir, et plus particulièrement les enfants. Il faut leur dire d'oser, il faut leur raconter des histoires d'hommes et de femmes courageux, des histoires qui changent le monde. Des histoires qui les font rire et pleurer, mais surtout, des histoires qui les empêcheront de rester passifs. Alors, à mon petit frère, à ma petite sœur, Et à vous aussi. Rêvez toujours d'un monde meilleur. Agissez toujours en ce sens. Et ne fermez jamais les yeux sur quelque chose qui vous révolte. Merci. Que pensez-vous de l'affirmation « qui est en bonne santé est riche sans le savoir » ? On le sait un peu moins à l'époque actuelle, et surtout dans notre société qu'on peut tout de même qualifier de privilégiée, mais la santé est quelque chose d'extrêmement important et qui n'a jamais été accessible à tous, même aujourd'hui. Regardez aux États-Unis, où les droits de santé sont payants. Ici, nous avons l'énorme chance d'être remboursés quand nous allons chez le médecin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qu'il y a de particulier avec la maladie, c'est qu'elle peut toucher n'importe qui, sans distinction de sexe, de race, de richesse, de classe. Tout le monde est égaux face à la maladie et quand ça va trop loin, face à la mort. Plusieurs personnes en ont déjà parlé, notamment dans des tableaux célèbres qui montrent la peste lorsqu'elle s'est répandue dans la grande épidémie en Europe. Alors, oui, je pense que la santé est la plus grande des richesses. Car vous aurez beau être riche, pouvoir faire le tour du monde chaque jour avec l'argent que vous avez, si vous êtes malade, vous ne pourrez pas en profiter. Je pense qu'il y a une seule richesse qui est plus grande que la santé, c'est l'amour de nos proches. Car même sur un lit d'hôpital, nos proches seront là pour nous soutenir. Alors oui, quand on est en bonne santé, on est riche sans le savoir, surtout dans notre société où on l'oublie et il faut se le rappeler plus souvent.